Radio Okapi, regard sur l'actualité de la semaine.
Bonjour et bienvenue dans votre émission de Radio Okapi intitulée Regard sur l'actualité de la semaine en RDC. Ravi de vous retrouver encore ce matin. Nous rappelons que chaque vendredi à partir des 21h et samedi à partir des 7h25 de Kinshasa, nous vous proposons de passer en revue les faits qui ont marqué l'actualité de la semaine en cours. Avec nos invités, nous essayerons de comprendre en quoi ces faits sont importants et quelles peuvent être leurs conséquences sur la République démocratique du Congo. Aujourd'hui, pour justement passer en revue l'actualité de la semaine, nous recevons ici au studio Johnson Ishara Boutaragaza. Il est acteur engagé de la société civile du Nord Kivu, coordonnateur national de la dynamique Génération Consciente. Il est également chercheur en gouvernance sécuritaire et politique. Il est activiste pour la démocratie et la bonne gouvernance et les droits humains. Il œuvre en faveur d'un État respectueux des libertés et de la participation citoyenne. Bonjour Johnson Ishara Boutaragaza.
Bonjour Monsieur Guy, bonjour à tous les auditeurs et bonjour également aux compagnons de débat.
En ligne depuis la ville de Gand en Belgique, Josaphat Moussamba, il est doctorant à l'université de Gand et chercheur au groupe d'études sur les conflits et la sécurité humaine. Bonjour Josaphat Moussamba.
Bonjour Guy Maté, bonjour à tous les petits. Bonjour à Chanson et à tous les auditeurs de la radio.
Et aussi en ligne depuis Johannesburg en Afrique du Sud, Madame Stéphanie Waltos, elle est chercheuse à l'Institut Sud-Africain des Relations Internationales. Bonjour Madame Stéphanie Waltos.
Bonjour Guy, bonjour à tous les auditeurs de la Radio Okapi et à Josaphat et Johnson.
Merci à tout de suite pour la rétrospective de cette journée d'actualité. Mesdames et messieurs, vous écoutez Regard sur l'actualité de la semaine, l'émission qui passe en revue l'actualité qui a compté au cours de sept derniers jours de la semaine.
Chers auditeurs, auditrices et internautes des Radio Capi, votre radio vous donne encore une autre possibilité de suivre ces programmes. Rejoignez-nous désormais sur le bouquet Canal+, channel 951. Radio Capi, encore plus près de vous pour mieux vous servir.
Nous sommes dans Regard sur l'actualité de la semaine. Je rappelle que cette émission connaît la participation de Johnson Ishara Boutaragaza. Il est acteur engagé de la société civile du Nord Kivu, coordonnateur national de la dynamique Génération Consciente. Et il est également chercheur en gouvernance sécuritaire et politique, activiste pour la démocratie et la bonne gouvernance et les droits humains. Il œuvre en faveur d'un État respectueux des libertés et de la participation citoyenne. En ligne depuis la ville de Gand en Belgique, Josaphat Moussamba, il est doctorant à l'université de Gand et chercheur au groupe d'études sur les conflits et la sécurité humaine. Et aussi en ligne depuis Johannesburg en Afrique du Sud, Madame Stéphanie Waltos, elle est chercheuse à l'Institut Sud-Africain des Relations Internationales. Trois sujets au menu de cette émission, à savoir accord RDC États-Unis relatif à l'accueil sur le sol congolais des ressortissants des pays tiers expulsés des États-Unis, EDF et les opérations contre-terroristes bilatérales et de la résurgence des massacres au Nord Kivu et à Ituri, et enfin, situation inquiétante des enfants congolais déplacés ou réfugiés. Mais nous allons commencer par émettre un commentaire au sujet du regain de la criminalité dans certaines villes de la RDC. En effet, la montée de la criminalité dans les grandes villes de la République démocratique du Congo, particulièrement à Kinshasa, marquée notamment par des cas de braquage, préoccupe les députés nationaux. Mercredi 8 avril, à l'Assemblée nationale, les vice-premiers ministres, ministre de l'Intérieur et Sécurité, Jacquemain Chabani, répondaient à cette problématique dans le cadre d'une question d'actualité du député Patrick Mounyomo. Le ministre a annoncé l'intensification de l'opération Ndobo, axée sur des patrouilles pour lutter contre la criminalité urbaine, tout en reconnaissant un défi important d'effectifs policiers face à une population en forte croissance. Johnson Ishara Boutaragaza, que pensez-vous de cette montée de criminalité dans certaines villes de la RDC et plus particulièrement à Kinshasa?
Voilà, merci beaucoup, Monsieur Guy. Je salue également tous les autres intervenants qui sont en ligne. Par rapport à cette question de la criminalité, l'insécurité urbaine, je pense que c'est un indice justement qui démontre noir sur blanc que l'autorité de l'État pose problème sur toute l'étendue du pays, et ça ne commence pas seulement dans les grandes villes. C'est peut-être parce que les gens ont des smartphones, facilement ils peuvent relayer une petite vidéo ou un petit incident, mais cette criminalité prend plus de l'ampleur même dans le milieu rural, où les gens deviennent de plus en plus silencieux face à tout ce qui se passe pour éviter des représailles à la suite. Donc on peut retenir qu'il y a ce problème là d'imposition de l'autorité de l'État sous toutes ses formes, sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo. Alors, tenez, pour les cas de la ville-province de Kinshasa, oui, c'est vrai, j'aurais bien voulu que le député n'en fasse pas un sujet politicien, parce que c'est une question plutôt de vie ou de mort pour les habitants, parce que voilà, à Delvaux, il y a un incident, les gens sont venus, étaient armés, ils ont tiré à balles réelles sur les habitants, ils ont dévalisé des maisons de vente des téléphones, ils se sont volatilisé. À Mongafula, il n'y a pas plus de 2 mois où plus de 60 maisons ont été visitées dans une seule nuit, et la situation a été maîtrisée elle-même par les bandits qui sont venus créer de la terreur. Ça nous pose quand même des sérieux problèmes. À Bumbu, il y a également, il n'y a pas 48 heures, il y a des gens venus armés en plein jour et qui ont tiré des balles réelles et qui ont pris tout ce qu'ils sont venus prendre et disparaître dans la nature. Alors, on se poserait la question également sur cette montée croissante également du banditisme urbain, où vous sentez que même les soussiates qui sont installés dans certains coins de la ville de Kinshasa solidarisent avec parfois des bandits, et de sorte que poser la question, mais qui est censé maintenant sécuriser qui? J'ai mal quand j'entends les autorités dire que ils sont conscients qu'il y a un problème d'effectif. Alors, vous allez voir, M. Guy, circuler Kinshasa, vous avez l'impression qu'il n'y a que ceux qui ont le pouvoir qui doivent être sécurisés par le policier. Et pourtant, en réalité, on a des effectifs qui doivent être réduits derrière des individus, mais des effectifs renforcés pour la population en détresse. Comment vous pouvez imaginer que chaque député national puisse avoir 2, 3, 4 policiers, et quand vous multipliez ça par 500 députés, vous avez un nombre surprenant de policiers qui sont seulement commis à la gare. Mais pourquoi au même moment vous allez être porte-parole de ces peuples et vous avez peur de ces peuples au point de vous sécuriser? De quoi avez-vous peur? De ce côté-là, vous avez également des sénateurs qui ont aussi des policiers, les bourgmestres. Donc vous avez l'impression que les policiers qui sont censés sécuriser les civils ne les sont pas. Par contre, ils sont là pour sécuriser les individus ayant le pouvoir.
Merci, Josaphat Moussamba. Le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, a répondu en annonçant, n'est-ce pas, certaines mesures, notamment l'intensification de l'opération Dobo, axée sur des patrouilles pour lutter contre la criminalité urbaine. Mais il a reconnu, n'est-ce pas, un déficit important d'effectifs policiers face à une population en forte croissance. Au-delà de ces déficits de policiers, pour vous, Josaphat Moussamba, quels sont les autres problèmes qui pourraient, n'est-ce pas, expliquer ces regains de la criminalité dans certaines villes de la RDC?
Merci beaucoup. Sans aller dans les considérations théoriques sur les éléments qui structurent la police territoriale, le plus souvent, dans la question du maintien de l'ordre public dans les États post-westphaliens ou les États hypermodernistes comme les États actuels, vous pouvez le voir en Belgique, vous pouvez le voir en France. Et, en dehors de ce que le ministre a dit, il parle d'effectifs. Je ne le crois pas, bien que l'on sache qu'à travers le pays, le nombre de policiers, tout comme des militaires, est en sous-effectif, bien qu'il soit là de manière globale. Mais ce n'est pas celui-là qui peut expliquer la montée en puissance de la criminalité dans les îles du Congo, que ce soit à l'est du Congo, au centre, à l'ouest. Ce n'est pas celui-là. Il y a d'autres phénomènes qui expliquent en fait la montée en puissance de la criminalité dans ce région, ça c'est un. Je pourrais aussi ajouter, deuxièmement, la question des cultures de contrôle. Il y a un auteur qui a écrit beaucoup les cultures de contrôle, parce que les États modernes mettent en place cette culture de contrôle de population. Comment ça contrôle la population? On doit contrôler les systèmes, par exemple, de déménagement, qui rentre, qui rentre. On doit contrôler les ménages. Les États modernes contrôlent en fait, des populations. C'est ça ce qu'il faut copier. Et donc, on sent qu'au Congo, la culture de contrôle existe moins. Voyez-vous, à Kinshasa, quelqu'un qui était Baloukou, il va émigrer à Limete et personne ne lui demande comment tu as changé l'adresse. Tu changes l'adresse, tu y viens directement. Personne ne lui demande. Et c'est, on peut savoir directement. Des criminels que nous avons allé opérer, par exemple, dans des quartiers périphériques de Kinshasa, mais on ne sait pas d'où ils viennent, on ne sait pas les repérer. Ça, c'est deuxième. Troisièmement, c'est aussi les, parce que la police congolaise a aussi une tâche qu'on appelle le renseignement. Est-ce que le renseignement de la police fonctionne très bien? Parce que le système de renseignement, s'il fonctionne très bien au sein de la police, va être en mesure de dénicher, un, le réseau de groupes des bandits criminels urbains, ça va commencer. Il va dénicher leur mode opératoire. Il va dénicher leur réseau dans les quartiers parce que, comme on le sait, à Kinshasa ou ailleurs aussi, moi j'ai travaillé comme Jean-Sébastien Bandaka, j'ai essayé de travailler un peu sur le Kouna dans la ville de Bandaka. Et donc, tu pourras voir les réseaux qui existent, qui vivent avec leurs parents. Et s'il y a un système de renseignement prononcé aller au-delà, qui va capturer les réseaux, pourra être en mesure de démanteler aussi les réseaux de vie. Mais cela ne se fait pas dans la plupart des cas. Je sais que la police le fait, mais ça ne se fait pas de manière systématique. Dans des villes comme Bukavu, aujourd'hui contrôlée par l'armée et occupée par les forces rwandaises, il y a aussi des actes de criminalité urbaine, tout comme dans les autres villes. Et comment ces forces occupantes, le Rwanda et les rebelles, essayent alors de mobiliser ceux qui...
Allô, Josaphat? Josaphat, est-ce que vous êtes là? Apparemment, un problème de réseau. Madame Stéphanie Waltoff, vous intervenez depuis Johannesburg en Afrique du Sud, hein, pays réputé aussi en matière de criminalité urbaine. Comment les gouvernements sud-africains arrivent-ils à gérer cette question?
Justement, le grand problème, c'est qu'ici, nous vivons dans une insécurité très répandue. Moi, je suis ici depuis 22 ans. Je suis venue de Kinshasa où j'avais jamais eu un problème avec une criminalité. Je crois que la ville de Kinshasa, il y a 20 ans, même 10 ans, ne vivait pas ce qu'elle est en train de vivre aujourd'hui. Et comme on dit, les intervenants avant moi, il y a plusieurs facteurs. Il inclut aussi la surpopulation et justement le manque d'effectifs bien entraînés, bien encadrés, bien ressourcés et bien payés et régulièrement payés. Donc je crois que tout ça, ce sont des éléments qui jouent un grand rôle dans la criminalité grandissante. Il inclut aussi évidemment la pauvreté. Nous avons les mêmes éléments ici en Afrique du Sud, même si la police ici est payée régulièrement et payée mieux que ce que sont payés les policiers en RDC. Il y a des problèmes de corruption, il y a des problèmes de réseaux criminels qui sont liés à la police, qui sont impliqués, qui ont la main mise sur la police. Actuellement, nous avons une grande commission politique qui est en train de se faire, une qui est indépendante et une autre qui se fait au niveau du Parlement sud-africain, justement pour voir à quel point il y a des liens entre des grands dirigeants de la police et les criminels ici en Afrique du Sud. Et toute la population est étonnée de voir à quel point il y a ces liens, à quel point la corruption a vraiment détruit le tissu de cette police. Maintenant, qui vit cette insécurité? Bon, nous tous, nous la vivons. Il y a des hijackings, il y a des kidnappings grandissants contre un échange de rançon. Mais c'est surtout les gens qui vivent dans les anciens townships qui vivent cette insécurité quotidiennement, que ce soit le téléphone qui leur est arraché, ou bien que ce soit les attaques comme des viols, des cambriolages, mais aussi des meurtres. Tout ça, c'est un phénomène auquel sont confrontées les populations qui vivent dans ces zones quotidiennement. Maintenant, l'autre problème, c'est que la capacité de la police d'enquêter et après de faire en sorte que les coupables soient attrapés et soient amenés en justice, tout ça, c'est énormément affaibli ici en Afrique du Sud. Et donc, je crois que ce qui est inquiétant, c'est qu'une fois que ce genre de choses s'installe, c'est incroyablement difficile de combattre ça, surtout dans une métropole aussi grande que celle de Kinshasa, à 20 millions de personnes et avec un urbanisme vraiment rampant qui n'est pas du tout contrôlé ni encadré par le gouvernement. Donc aujourd'hui, la sécurité est une priorité à travers toute l'étendue de la RDC, mais je crois qu'il y a quand même des défis particuliers dans les grandes villes comme celle, et particulièrement celle de Kinshasa.
Merci, on prend une petite pause en écoutant Nzale, Nzale, cette chanson de Rochero Tabouley, on se retrouve juste après. De Rochero Tabouley. Nous rappelons que le seigneur Rochero Tabouley nous a quittés le 30 novembre 2013 à Bruxelles, paix à son âme. On revient à l'actualité cette semaine. La République démocratique du Congo va commencer à partir de ce mois d'avril 2026 à recevoir temporairement sur son sol des ressortissants des pays tiers expulsés des États-Unis dans le cadre des modalités définies conjointement. L'annonce a été faite à travers un communiqué publié dimanche 5 avril 2026 par les ministères congolais de la communication et médias. La prise en charge logistique et technique sera assurée par le gouvernement américain à travers des structures spécialisées dans les mouvements des personnes à travers le monde. Aucune charge financière ne sera supportée par les trésors publics de la RDC, précise le communiqué. Ces mécanismes s'inscrivent dans le respect de la souveraineté nationale, des exigences de sécurité et des engagements internationaux du pays selon la même source. Cependant, une frange de la société civile critique déjà cet accord et appelle à ne pas l'appliquer. Madame Stéphanie Waltos, vous êtes chercheuse à l'Institut sud-africain des relations internationales. Vous avez souhaité justement nous parler de cet accord RDC-États-Unis relatif à l'accueil sur les sols congolais des ressortissants des pays tiers expulsés des États-Unis. On vous écoute.
Oui, justement, Guy, merci pour cette introduction. Comme vous l'avez dit, il y a eu cet accord qui a été signé pour envoyer des migrants expulsés des États-Unis en RDC. Alors, à part le fait qu'on ne connaît pas le nombre de personnes qui vont être envoyées, on sait que cela commencera dès ce mois d'avril et on nous informe aucun poids économique pour la RDC, pour le gouvernement de la RDC. Ce qu'on sait en plus, c'est que ce sont les migrants ou les applications d'asile n'ont pas encore été décidées ou bien ont été refusées par les États-Unis. Et on sait aussi que les sites où ils seront hébergés seront à Kinshasa et qu'ils vont rester entre 3 et 6 mois. Alors on a assez peu de détails sur un événement quand même assez important. Alors pourquoi est-ce qu'on est un peu peut-être inquiété par rapport à cette annonce? D'abord, je crois qu'il faut regarder aussi le contexte américain. Depuis que Trump est au pouvoir, nous avons un contexte de l'immigration aux États-Unis qui est très, très agressif. Très agressif contre les immigrants, une politique anti-immigration qui plaît beaucoup à la base qui a élu Donald Trump. Donc, on a déjà vu des villes entières où on est en train de traquer les immigrants, même des immigrants avec des papiers totalement en ordre qui après sont mis en dans les centres de détention et après expulsés du pays. Donc déjà, c'est inquiétant de voir que la RDC sera associée avec une politique aussi agressive envers les immigrants aux États-Unis. Il y a aussi la question qu'on se pose. Si ces immigrés arrivent en RDC, après ils iront où? Parce qu'il y a quand même le principe de non-refoulement dans leur pays, c'est-à-dire si tu as demandé aux États-Unis un asile parce que tu es en insécurité pour des raisons politiques chez toi, que ce soit au Cameroun ou bien au Thaïlande, après tu ne peux pas être renvoyé dans ce pays. Ça c'est le principe de refoulement. Alors dans quel contexte est-ce qu'ils vont transiter par la RDC pour aller où? Et avec quels moyens? Après, il y a aussi les conditions. Dans quelles conditions est-ce que cet accord a été conclu entre la RDC et les États-Unis? On connaît bien sûr le grand accord signé entre la RDC et les États-Unis sur les minerais. On connaît le rôle que jouent les États-Unis dans la recherche de la paix entre la RDC et le Rwanda. Et aussi l'annonce d'un soutien de presque $1 milliard au secteur de santé en RDC. Alors aujourd'hui, on peut se poser la question, est-ce que la RDC avait le choix quand ils se sont mis d'accord avec les États-Unis pour accueillir ces migrants? Encore une fois, combien de personnes viendront? Ils viendront d'où? Comment seront-ils relocalisés? Est-ce que ce sera la RDC qui va prendre la décision par rapport au pays où ils iront après être transités en RDC? Tout ça, c'est des questions qui se posent. Et c'est aussi lié au sujet qu'on vient de terminer par rapport à l'insécurité à Kinshasa. Est-ce que l'État congolais a la capacité de bien accueillir ces migrants? À Kinshasa, on va les mettre où? On ne connaît pas les sites, on connaît l'état de la ville, dans un état d'insalubrité, des encombrements sans cesse, une surpopulation, pas suffisamment de centres de santé, une prise en charge de santé très pauvre. Alors, quelle sera la condition dans laquelle vivront ces migrants? Le personnel qui va encadrer ces gens et ces sites, est-ce que ce sera le personnel de la DGM? Est-ce qu'ils sont formés particulièrement pour encadrer des migrants qui parleront peut-être même pas le français ni d'autres langues congolaises? Comment est-ce qu'on va s'occuper de tout ça? Et bien sûr aussi la question du respect des droits de l'homme de ces migrants. Maintenant, évidemment, la réaction de la population congolaise et de la société civile congolaise, ça se comprend. La RDC a presque 7 millions de déplacés internes et maintenant elle va accueillir, même si c'est pas à ses coûts, elle va accueillir des migrants. Est-ce que réellement c'est le contexte dans lequel on fait ce genre d'accord? Maintenant, par rapport à l'expérience que les États-Unis ont déjà faite, parce qu'ils l'ont fait, ils ont fait des accords comme ça avec d'autres pays. Il y a eu un rapport qui a été fait par le Sénat américain pour regarder cette expérience dans d'autres pays. Ils ont déjà, dans le passé, envoyé des migrants au Rwanda, en Guinée équatoriale et en Eswatini, l'ancien Swaziland. Et ce rapport du Sénat a constaté que les États-Unis ont tendance à prendre ces gens d'accord avec des pays qui ont un niveau de développement faible et une capacité institutionnelle limitée, surtout dans le domaine de la gestion migratoire. Et aussi un bilan mitigé avec les droits de l'homme. Donc c'est déjà un peu inquiétant que dans le passé, cette politique a envoyé des gens dans des conditions et dans des situations très insécures. Je rappelle aussi qu'il y a eu aussi une tentative par le gouvernement de la Grande-Bretagne de s'engager dans une politique très similaire, où ils avaient l'intention d'envoyer des migrants expulsés de la Grande-Bretagne au Rwanda. Et la société civile de la Grande-Bretagne s'est très opposée à ça, et finalement la justice britannique a décidé que les conditions n'étaient pas bonnes pour envoyer des migrants au Rwanda, et finalement le gouvernement a changé, ils ont mis fin à cette politique-là. Donc il n'y a pas beaucoup de bons exemples où ce genre de programme a vraiment réussi, et donc beaucoup d'inquiétudes et encore beaucoup de flou autour de cet accord.
Merci. Josaphat Moussamba, est-ce que vous êtes là?
Oui, je suis là.
À un moment donné, vous avez perdu. Voilà, je rappelle que vous êtes doctorant à l'Université des Gants et chercheur au groupe d'études sur le conflit et la sécurité humaine. Vous avez suivi Madame Stéphanie Wolthoff qui se pose une série de questions, n'est-ce pas, par rapport à ses partenariats RDC-États-Unis sur l'accueil sur le sol congolais des ressortissants des pays tiers expulsés des États-Unis. Et l'autre question aussi que les gens se posent, c'est celle de savoir, sera-t-il possible pour la RDC de mettre en place des mécanismes pour prévenir tout dérapage, parce que un jour ces personnes qui vont arriver pourraient aussi revendiquer, n'est-ce pas, certains droits, notamment celui d'obtenir la nationalité congolaise, n'est-ce pas? Est-ce que la RDC aura la possibilité de mettre en place ces mécanismes pour prévenir tout cela?
Merci beaucoup pour Stéphanie, la communication qu'elle a faite et les éléments qu'elle a présentés. Par contre, je voudrais dire que la RDC reste toujours un État. Et je suis content lorsqu'elle a dit que les rapports du Sénat américain a mentionné que le plus souvent les Américains renvoyaient ces gens dans les États qui ont voilà un système, une gouvernance faible, des problèmes de fragilité. Le Congo est aussi partie de ces États là-bas et le Congo a sa politique de surtout la politique d'asile, la politique la gestion de réfugiés. Moi, je connais des réfugiés burundais ou des réfugiés aussi rwandais qui habitent dans la ville de Bukavu, avant l'occupation de Bukavu et les 23. Maintenant, le seul grand problème et le souci pour moi, c'est celui que vous dites. Est-ce que demain, ils vont devoir revendiquer le problème des nationalités? Ça dépend, ils vont passer combien d'années, parce que Stéphane dit qu'ils viennent au terme des accords, ils viennent pour 3 ou 6 mois. Ma seule crainte est que, est-ce que le ministère congolais qui est en charge, le secrétariat en général, je pense, en charge des, soit des questions d'asile ou des affaires humanitaires, bénéficiera de moyens pour pouvoir pas réinsérer d'abord ces gens là-bas, le prendre en charge pendant les temps et après. Mais le seul souci, c'est de savoir dans quelle mesure ces gens là-bas seront pris en charge par d'abord le ministère ou le secrétariat en charge des actions humanitaires, ou son équivalent qui regarde la question de l'asile ou les demandeurs d'asile au Congo, c'est parce qu'il en existe, et comment ils vont le faire avec les mêmes approches que ça s'est fait dans les autres pays.
Merci, Johnson Ishara Boutaragaza. Vous êtes acteur engagé de la société civile du Nord Kivu. Vous êtes coordonnateur national de la dynamique Génération Consciente. Vous êtes également chercheur en gouvernance sécuritaire et politique, activiste pour la démocratie, la bonne gouvernance et les droits humains. Vous œuvrez en faveur d'un État respectueux des libertés et de la participation citoyenne. Justement, on parle d'un séjour temporaire, mais certaines personnes se posent la question de savoir si cet temporaire-là ne peut-il pas devenir permanent, durable, définitif ou même perpétuel, hein, dans ce sens que, logiquement, leur séjour pourrait être fonction de l'amélioration des situations, n'est-ce pas, dans leur pays d'origine?
Merci, Monsieur Guy, pour cette question. J'ai salué également le pertinentes analyses menées par mes collègues à cette émission. Je remercie Madame Stéphanie pour son choix porté à cette question qui fait couler d'encre et des salives au sein des organisations citoyennes en République démocratique du Congo. Oui, c'est vraiment des questions importantes qu'il faut se poser. On parle de 6 mois, mais si je peux seulement paraphraser ces grands diplomates, un ancien diplomate américain, Peter Fan, qui a dit « Les migrants illégaux expulsés des États-Unis vers la République démocratique du Congo, qui, pour diverses raisons, ne peuvent pas être renvoyés dans leur pays d'origine. » Donc, ça veut dire, on nous dit que 6 mois, Mais le 6 mois là ne ressort pas. Le 6 mois est ressorti dans le discours. Mais quand vous lisez l'accord lui-même, il ne dit pas 6 mois. Et il y a maintenant une nébuleuse autour de la durée de ces gens en République démocratique du Congo. Et ça pose problème. Si ces gens ne sont pas à mesure d'être envoyés chez eux, et que déjà on les reçoit en République démocratique du Congo, ça risquerait de ressembler, permettez-moi de vous renvoyer à l'Antiquité, à cette histoire qui nous parle du cheval de Troie. Ça c'est d'un un. De deux, j'étais quand même intéressé de savoir, c'est quoi au fait l'opportunité de cet accord? Qu'est-ce qui pousserait la République démocratique du Congo dans les contextes actuels de s'engager sur ces terrains-là, Monsieur Guy? Déjà, on va recevoir des émigrants expulsés. Dans cette compréhension, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a des citoyens du monde, parce qu'on n'a pas précisé leur pays d'origine, mais qui sont en conflit avec les lois américaines. C'est ce que ça veut dire. Ça veut dire que...
D'abord, ils ne sont pas acceptés par les Américains.
Oui, s'ils ne sont pas acceptés, ça veut dire qu'ils sont en conflit avec la loi américaine. Alors, vous prenez les gens qui sont en conflit avec une loi d'un pays souverain, vous les recevez quand même chez vous, je suis d'accord avec Josepha, voilà, nous sommes un pays aussi accueillant, nous pouvons également le droit d'asile, mais le contexte est pirement différent. Parce que, tenez, on va les accueillir, on va les héberger, on va les sécuriser, mais nous n'avons pas été à mesure de loger, de sécuriser les victimes des inondations ici à Kinshasa, M. Guy. Ils ont fait plus de 6 mois au gymnase Tata Raphaël. Les Congolais. Bon, maintenant, aujourd'hui, nous avons des déplacés internes. Oui, Madame Stéphanie en a parlé, Joseph en a parlé. Je connais ce qui se passe au Nord Kivu. Ou même les déplacés, des mamans qui parfois passent des journées et des journées dans des hangars d'école, sans fenêtres, sans portes. Et on a un gouvernement qui est là. Mais on a l'impression qu'on va avoir quand même pitié d'autres, ceux qui sont expulsés des États-Unis. Ça, c'est un...
Les aspects financiers seront assurés par les Américains.
Oui, je veux bien que ça soit assuré par les Américains, mais ce sont les Congolais qui seront là pour la mise en œuvre. Les conséquences, parce que dans cette histoire, là où des éléphants se battent, ce sont les hommes qui en souffrent. L'idée, c'est qu'il faut également savoir... Que autant on est en train de parler qu'on va les amener à Kinshasa, on ne veut pas également préciser, ça sera précisément où, est-ce qu'on va les amener à Limete, est-ce qu'on va les amener à Tiangou, est-ce qu'ils seront à Maluku, et s'ils seront à Maluku, où exactement, ils sont au nombre de combien, parce que, voilà M. Guy, la gestion quand même de la République, la chose publique, c'est une affaire de tous les Congolais. Et la grande problématique également qui se pose, c'est la procédure dans laquelle cet accord a été rapidement conclu. Parce que ça devrait faire objet de tout un débat au sein de l'Assemblée nationale. Oui, on sait que cette Assemblée nationale est acquise à une mouvance présidentielle. On sait que les débats peuvent être peut-être en sens cynique. Mais le plus important, c'est que dans le choc des idées, jaillit la lumière. Le peuple congolais serait informé. De quoi il s'agit? Ils sont en combien? Ils nous viennent précisément de quel pays? Parce que c'est dans une blague de gouvernance comme ça qu'à 1994, on a ouvert le porte à un peuple qui était aussi en détresse, du Rwanda. Mais aujourd'hui, ça a causé des torts pendant plus de 30 ans. Nous avons également d'autres qui sont venus de l'Ouganda, qui sont ancrés, je sais que Josepha va en parler, qui sont ancrés de créer de la terre au nord Kivu dans la partie et vers Ituri également. Les ADEF sont venus de l'Ouganda. Maintenant, nous avons beaucoup de questions qui sont posées et je pense que ça valait la peine que les organisations de la société civile puissent également monter au créneau pour dire nous ne voyons pas clair dans cette affaire, voilà. Et qu'il n'y a pas une raison noble à ce niveau, vu le contexte de la République démocratique du Congo, un pays en guerre, un pays dont la situation sécuritaire reste également très chaotique, la corruption prend de l'ascenseur, ça veut dire qu'ils peuvent même acheter des cartes tout en étant dans l'air milliers isolés au téléphone. Donc,
merci.
J'espère en tout cas que ça valait la peine qu'on puisse soulever toutes ces inquiétudes et au besoin demander au gouvernement de ne pas se précipiter à la mise en œuvre, bien que je trouve que déjà dans ce mois d'avril, ils vont commencer à recevoir les expulsés des États-Unis.
Merci, chères auditrices, chers auditeurs. L'actualité en RDC, c'est aussi l'actualité musicale. Comme vous le savez, la 11e édition du festival Amani se tient depuis ce vendredi 10 jusqu'au dimanche 12 avril au complexe Kiwele de Lubumbashi dans les Haut-Katanga. Les musiciens Ferregola, Youssoufa, Jean Goubal Kalala, Inos Bi, ainsi que plusieurs autres artistes du Nord Kivu, du Sud Kivu et de Lubumbashi se produisent à ce festival. À cette occasion, on va écouter Elou, une des compositions de Jean Goubal Kalala, et on revient juste après le journal de 8 heures.
Ulingwelo koyo izana pakete bisepseke. Etoke kangi okachi. Papa chéri, yo na bokiso bompem. Narcisse bokuma. Eloko bino ulinaka. Eno.
Yeba na lingiona bulinguya solo mama bulinguya nami. Yelele ayelei.
José Mandjiku,
Yelu Sangama, Ngana Lingakayo, Tango Nyoso, Seko Kanisa Yona Kumi Sunakae, Soko Lingakanga Impena Yebite, Soko Banza Kangana Mule Matayo, Elu 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 Yango Na Kulinga Lenga, Yelele,
Noel Bea,
Amule Asolo, Yebaka o eluwe Mule manangayo Mabazu mangayo Nyayo kitoku anzoto Yaminzoto likulu Oyo ya mule maya Santa Maria unte Longo nyala zambese na mamabutayo Umu ibuanga buiso loso kinga na zangyo Yango na kubanga yango na kulinga lenga Iyelelele
Makashika atamamu
Radio Okapi, regard sur l'actualité de la semaine.
Bonjour, nous revenons dans cette émission Regard sur la toute la semaine. Je rappelle que chaque vendredi à partir de 21h et samedi à partir de 7h25 de Kinshasa, nous vous proposons de passer en revue les faits qui ont marqué la toute la semaine en cours. Avec nos invités, nous essayons de comprendre en quoi ces faits sont importants et quelles peuvent être leurs conséquences sur la RDC. Dans la première partie de ces magazines, nous avons fait un commentaire au sujet du regain de la criminalité dans certaines villes de la RDC. Nous avons également analysé l'accord RDC-États-Unis relatif à l'accueil sur les sols congolais des ressortissants des pays tierces expulsés des États-Unis. Participe à cette émission Johnson Ishara Boutaragaza. Il est acteur engagé de la société civile du Nord Kivu. Il est coordonnateur national de la dynamique Génération Consciente. Il est également chercheur en gouvernance sécuritaire et politique, activiste pour la démocratie, la bonne gouvernance et les droits humains. Il œuvre en faveur d'un État respectueux des libertés et de la participation citoyenne. En ligne depuis la ville de Gand en Belgique, Josaphat Moussamba, il est doctorant à l'université de Gand et chercheur au groupe d'études sur les conflits et la sécurité humaine. Et aussi en ligne depuis Johannesburg en Afrique du Sud, Madame Stéphanie Walters, elle est chercheuse à l'Institut Sud-Africain des Relations Internationales. Une nouvelle incursion attribuée aux rebelles des ZDF a semé la panique dans la localité de Mambasa dans la nuit de dimanche à lundi 6 avril. L'attaque s'est produite vers 22h. Selon des sources locales, les assaillants seraient venus de leur bastion situé à près de 4 km en direction d'Indimon. Le bilan provisoire fait état de 2 civils blessés et de 2 bâtiments abritant des boutiques incendiées. Pris de panique, les habitants ont massivement quitté leur domicile pour se réfugier au centre de Mambasa. D'après la société civile, l'intervention des forces de sécurité en patrouille a permis de limiter les dégâts après des échanges de tirs avec les assaillants. Cependant, cette structure citoyenne dénonce une inefficacité persistante des opérations militaires face aux exactions des ZDF accusées d'avoir tué près de 100 personnes en l'espace de 2 semaines dans la région. Cette attaque était intervenue 3 jours après celle de jeudi 2 avril qui a causé la mort de 45 civils dans le village de Bafouakoa, situé toujours dans les territoires de Mambasa en Ituri. Josaphat Moussamba, vous avez souhaité nous parler de cette actualité en l'intitulant ainsi EDF, les opérations contre-terroristes bilatérales de la résurgence des massacres au Nord Kivu et en Ituri. On vous écoute.
Merci beaucoup. Moi, je voulais parler de cette question, sachant qu'il y a quelques semaines, un grand forum, une conférence s'est tenue dans la ville de Bounia, où la plupart d'autorités, des acteurs de société civile et beaucoup d'autres personnes ont participé pour parler d'électronisme et violence, surtout de la dynamique aérienne. Mais ce qu'on voit déjà depuis 2021. On ne peut pas dire que les massacres ont commencé hier ou avant-hier, mais je sais que depuis, comme j'ai fait des recherches dans cette zone, hein, Mayango, c'est Oicha, il y a quelques années, les Indiens ont souvent massacré des populations, surtout ils étaient beaucoup dans le territoire, dans la province du Nord Kivu, et avec des opérations militaires, parce qu'ils bougent beaucoup, ils se sont aussi étendus dans la province de l'Ituri. Et souvent, les territoires qui accolent beaucoup la province du Nord Kivu, le territoire de Beni, on voit Mambasa qui est un des territoires du Ituri. Et c'est dynamique, on peut voir les connexions entre Beni territoire et Mambasa. On va voir ces dynamiques depuis longtemps avec les opérations militaires. Ils ont souvent mené des opérations pour couper les routes ou attaquer les communautés qui les touchent dans leurs champs parce que beaucoup de gens vont faire des séjours dans leurs champs pour cultiver parfois les IDF viennent et les tuent. Mais ces derniers temps, ces attaques s'accroissent de manière et je ne vais pas donner les explications. Par contre, c'est qu'on peut savoir tous ces acteurs et la manière dont ils essayent de mettre en place politique de terreur qui, à mon humble avis, vise à dissuader. D'abord, d'un côté, c'est qu'on attend venger peut-être les pertes subies lors de la frappe qui sont infligées pour qu'ils reçoivent leurs opérations militaires conjointes, ce qu'ils appellent la politique contre-insurrectionnelle bilatérale. Deuxième, c'est aussi comme les IDF ont déjà depuis des années pris des contacts avec l'État islamique. Quand on dit le mot d'opérateur de l'État islamique, c'est aussi les massacres de population, c'est cette terre-là. Peut-être séduire aussi le leadership de ces groupes, mais aussi créer de la terreur auprès de la population, parce que ce serait bien que dans d'autres endroits qu'on essaie de regarder entre Mambasa et Oicha ou Beni, il y a quand même des passerelles de collaboration entre les ADF et les communautés, parce que dans leur technique, je vais en parler, certains étaient depuis longtemps ancrés dans la communauté. D'autres collaborent avec des corporations de motards.
Jean-Jacques Moussamba ?
Oui.
S'il faut revenir sur ces massacres, c'est une question, n'est-ce pas, qui soulève toute la problématique de l'efficacité des opérations conjointes FRDC et UPDF qui semblent pourtant porter des fruits dans les grands nord du Nord Kivu, mais pas en Ituri. Comment vous expliquez que quand c'est dans les grands nord, on voit quand même les résultats de ces opérations, mais lorsque c'est en Ituri, ça devient compliqué? Quelle est la particularité de l'Ituri pour que les opérations UPDF-FRDC ne puissent pas porter les fruits escomptés?
Alors, il y a deux ou trois particularités qui ne sont pas exhaustives, comme je peux te dire. Et donc, le premier, c'est que l'Ituri, c'est une province qui est archi-fragmentée en termes de mobilisation armée, en termes de dynamique des groupes armés. Ça, c'est un élément assez important à prendre. Deuxième élément, c'est en fait, les UPDF en Ituri, ont été à un certain moment contestés, délégitimés par une frange de Congolais, surtout des Lindous, parce qu'ils pensent que les UPDF ont appris partie des populations de l'Ituri, surtout les Yéma et historiquement l'UPC, et que ça a créé beaucoup de tensions avec le Codeco lorsqu'ils étaient déployés là-bas. Et troisième élément que je vois le plus, c'est la contestation qu'il y a entre l'autorité provinciale qui est le gouverneur militaire, Denis Loboya, et qui lui, visiblement, ne supporte pas les nombreuses tweets et déclarations du chef d'état-major, je pense général, ou de l'armée de l'Ouganda, des fils du président ougandais, Muhoozi Kainerugaba, qui estime qu'il faisait des menaces qui vont venir les chasser par force, et il estime que Denis Loboya ne fait pas le travail, et Denis Loboya aussi veut montrer qu'il maîtrise, et d'ailleurs, il est en train de faire une politique de la chasse des CRP, mais je crois que ça, c'est un élément aussi pas important, un élément à mettre dans notre cadre analytique pour comprendre pourquoi les UPDF, parfois, ils n'ont pas beaucoup de succès dans l'Ituri, surtout les parties de Mambasa, et d'ailleurs, je pense que les UPDF n'étaient pas déployés là-bas. Mais il y a d'autres éléments aussi qui sont liés à les suiveurs dans les rébellions, et surtout, ou bien dans les groupes terroristes comme celui-là, qui peuvent expliquer vraiment les, l'accroissement aujourd'hui d'une politique de terreur et des massacres.
Merci.
À grande échelle des alliés.
Merci Johnson. Ishara Boutaragaza, les EDF avaient commencé leur exaction dans les territoires des Beni au nord Kivu, ils ont évolué vers les territoires des Lubero et aujourd'hui ils sont dans certains territoires des Ituri. Et si on y prend garde, jusqu'où cette menace pourrait-elle s'étendre sur le territoire congolais, Johnson Ishara?
Oui, Monsieur Guy, je pense que cette question reste très, très préoccupante sur le, les tableaux sécuritaires de la République démocratique du Congo aujourd'hui. Et le dossier ADEF, ça évolue au fur et à mesure. Au début, je rappelle ici qu'en 1995, quand ADEF tout court avait vu le jour, c'était constitué des opposants contre le pouvoir de Yoweri Museveni en Ouganda et qui ont voulu même organiser des coups d'État, ça n'a pas marché. Ils ont fui vers les forêts congolaises à l'époque. Ils ont évolué en ajoutant la dimension des Nalumena. Ils sont devenus un groupe armé bien organisé pour eux et qui ont maintenant commencé à s'en donner aux paisibles populations dans cette forêt, dans cette jungle-là. Et non seulement que c'est ADEF Nalu, mais ça a encore évolué en ayant aujourd'hui le soutien financier de l'État islamique. Donc ça prouve quand même qu'il y a de l'évolution dont nous ignorons parce que jusqu'au jour d'aujourd'hui, ils n'ont jamais rendu publiques leurs revendications. Nous constatons seulement tous les jours qu'ils peuvent attaquer un village incendié. Il y a des Congolais qui sont aussi parfois élevés. Après quelques mois, après quelques années, ils sont, leurs cerveaux sont formatés et ils reviennent également pour causer la terreur à leurs compatriotes. Parce que voilà, j'ai été pendant plus de 4 ans porte-parole de la nouvelle société civile dans la province du Nord Kivu. Et nous avons suivi à temps réel ces dossiers des ADEF, mais c'est très grave. Il y a eu également d'autres notabilités, certains politiciens congolais qui seraient également accusés dans, derrière tous ces mouvements. Donc ça évolue jusqu'à ce que ça fait peur sur les raisons de son existence. Mais le problème aussi, voilà, c'est cette question-là. Vous allez remarquer que aujourd'hui la partie du Grand Nord, il y a une très grande zone aujourd'hui qui était habitée il y a 5 ans, qui n'est plus habitée. Parce que tous ces villages, chaque fois que ces villages sont attaqués, les maisons brûlées, les enfants enlevés, les femmes violées, ce sont le village qui s'est vide. Donc on est en train de remarquer comme si il y a un vide qu'on est en train de vouloir forcer une population à effectuer. Et on remarque également que dans ces zones-là, il y avait un taux élevé de massacres quand on est dans la période de récolte du cacao. Alors, tous ces paysans-là qui ont eu le temps de cultiver leur cacao lors de la moisson, ils n'arrivent pas à le faire. Ils étaient toujours contraints à abandonner. Bon, mais non sur l'axe Ituri. C'est vrai, ça posait des sérieux problèmes parce qu'avant, il y a eu des opérations farouches qui ont été menées au niveau du Grand Nord. Je dois également rappeler, Monsieur Guy, peut-être que ça va vous permettre et ça va permettre à nos auditeurs de réfléchir encore profondément sur la question des ADEF. Vous vous rappellerez, Monsieur Guy, pendant que nous étions en train de mener un combat de plaidoyer des défenses des droits humains dans la province du Nord Kivu, il y a un haut militaire congolais. À son époque, il était commandant mais affecté dans la zone de Beni. Aujourd'hui, je crois qu'il est général Mundos. Il avait réussi dans une opération à faire libérer 850 otages pris par les ADEF. Et quand ce succès est arrivé, M. Mundos a été changé de cette zone-là. Et pendant qu'il était en train d'être imité, c'était l'avènement de Mamadou Ndala. Mamadou Ndala qui prend le micro et cette interview est devenue très historique. Il dit, nous allons même les retirer. S'ils ont été enterrés, s'ils ont été mangés par le poisson, nous allons déchirer le ventre du poisson pour libérer nos compatriotes. Alors ça veut dire qu'il a montré qu'il est prêt à ne pas lâcher.
Mais quelques temps après, il a été tué.
Il a été tué dans des circonstances aujourd'hui que même la justice n'avait pas éclairé. Donc on sent quand même que cette question, au même moment qu'elle continue à endeuiller nos compatriotes, mais on a l'impression que la politique congolaise, c'est pas qu'elle ne s'y met pas, mais est-ce qu'on est en train d'appuyer sur la bonne gâchette? Voilà, maintenant pour le Grand Nord,
il y a eu des opérations conjointes avec l'armée ougandaise, et à son arrivée, en tout cas, en République démocratique du Congo, on est informé, mais ce qui n'est pas le cas pour l'arrivée de l'armée ougandaise à Ituri. Et d'abord, on a senti un sabotage de nos services de sécurité, parce que quand l'armée ougandaise arrive avec tous ses véhicules, avec tout son armement, l'armée congolaise qui était sur place n'était pas informée. C'était d'abord très mal parti, et avec des conséquences aujourd'hui que j'attends, Josepha essaie de soulever par rapport des frustrations entre le gouverneur militaire, entre certaines communautés qui sont là. Oui, les chefs d'état-major devraient être appelés à l'ordre par la diplomatie congolaise, parce que sa communication reste scandaleuse et ça frustre. Tout ce qu'on peut faire dans des opérations conjointes, c'est de se rassurer si le partenaire est de bonne foi.
Merci. Merci, Madame Stéphanie Waltos. Quel regard avez-vous de cette montée des violences des EDF qui s'étend sur beaucoup de territoires congolais, plus particulièrement à Mambasa, dans l'Ituri?
Oui, certainement, quand vous regardez le fait que dernièrement, c'est surtout l'ADF qui a tué le plus de civils, au-delà de 100 personnes, et puis même plus que le M23, et puis aussi qu'ils ont enlevé plus de 400 civils sur le territoire de Mambasa, il y a de quoi s'inquiéter. Mais je crois que c'est malheureusement un phénomène que nous voyons depuis des années, et c'est grandissant. Ça ne s'arrête pas. Nous appuyons toujours la même solution, c'est-à-dire une intervention militaire, que ce soit la force, la brigade d'intervention de la MONUSCO qui s'attaque au ADF mais qui ne réussit pas à réellement les neutraliser, ni à réduire le nombre de massacres ou d'enlèvements, ni à réduire leur capacité de s'étendre encore plus au-delà de là où ils étaient actifs il y a 10 ans. Maintenant, nous avons cette opération Shuja depuis presque 5 ans et nous ne voyons pas de changement. Et je me demande à quel point est-ce que le gouvernement de Kinshasa, qui est le premier concerné, va revoir son approche. Parce que nous ne voyons que des opérations militaires qui, effectivement, qui ne réussissent pas. Et nous avons, évidemment, l'UPDF qui est impliqué et qui prend des décisions sans nécessairement informer Kinshasa. Il y a un partenariat, certes, qui est officiel, mais des fois, ils déploient des troupes sans l'aval de Kinshasa. Alors, quel est le raisonnement pour ça? Qu'est-ce qu'ils cherchent réellement? Et puis, finalement, comme je disais au début, l'efficacité n'est pas du tout là. Et puis, on ne peut pas rester avec la situation où vous avez des citoyens totalement terrorisés tous les jours à la merci de tous ces différents groupes pour des années et des années et des années sans revoir l'approche. Alors aujourd'hui, qu'est-ce que c'est l'ADF? C'est une question qui vraiment, à mon avis, est encore très floue. Évidemment, nous savons que depuis de certaines années, nous connaissons leurs origines ougandaises, bien sûr, mais ça fait déjà plus que 30 ans maintenant. Et nous savons qu'ils sont alliés ou appuyés par l'État islamique. Mais il y a, comme disaient Josaphat et Johnson, il y a un élément congolais, il y a un élément politique, il y a un élément économique dans tout ça. C'est à ça qu'il faut s'adresser. Comme avec toutes les autres dynamiques de conflit dans le pays, on ne peut pas toujours prôner l'approche sécuritaire, surtout quand il ne fonctionne pas pendant autant d'années.
Merci Madame Stéphanie Waltos. On prend une petite pause en écoutant Lekela Mwadi de la Mamou Nationale, Tchala Mwana, et on se retrouve juste après.
Oui, Kaladin, qu'elle n'a pas quoi t'en mouche. Kabouya. Yeah.
De la Mamou nationale Tchadamouana, de Kelamouadi, comme pour dire à toutes les victimes des ZDR de rester optimistes et de continuer à espérer, de ne pas perdre l'espoir. On rappelle que Tchadamouana nous a quitté le 10 décembre 2022 à Kinshasa, à son âme. Je rappelle que nous avons dans cette émission Johnson Ishara Boutaragaza. Il est acteur engagé de la société civile du Nord Kivu. Il est coordonnateur national de la dynamique Génération Consciente. Il est également chercheur en gouvernance sécuritaire et politique, activiste pour la démocratie, la bonne gouvernance et les droits humains. Il œuvre en faveur d'un État respectueux des libertés et de la participation citoyenne. En ligne depuis la ville de Gand en Belgique, Josaphat Moussamba. Il est doctorant à l'université de Gand et chercheur au groupe d'études sur les conflits et la sécurité humaine. Et aussi en ligne depuis Johannesburg en Afrique du Sud, Madame Stéphanie Walters, elle est chercheuse à l'Institut Sud-Africain des Relations Internationales. Le directeur régional de l'UNICEF pour l'Afrique de l'Ouest et du Centre, Gilles Faninou, a alerté sur l'aggravation de la crise de la protection de l'enfant et l'augmentation des menaces visant les travailleurs humanitaires dans l'Est du pays. Dans un communiqué rendu public à l'issue de sa mission au mois de mars, c'est précisément le 25 mars, en RDC, il a appelé à une mobilisation renforcée face à une situation jugée de plus en plus préoccupante. Selon l'UNICEF, plus de 7 millions de personnes sont déplacées dans l'Est de la RDC, dont 2,5 millions d'enfants. En 2024, près de 4000 violations graves des droits de l'enfant ont été recensées et les enfants représentent plus de 40% des victimes de violences sexuelles. Les violences armées continuent de cibler les infrastructures civiles, notamment les écoles, les structures de santé et d'autres services essentiels, privant ainsi des milliers d'enfants d'un environnement sûr et d'un accès aux droits fondamentaux. Johnson Ishara Boutaragaza, vous avez, n'est-ce pas, souhaité nous parler de la situation inquiétante des enfants congolais déplacés ou réfugiés. On vous écoute.
Oui, monsieur Guy, merci de nous avoir associés encore une fois à cette émission pour cette question, cette thématique que nous portons, parce que nous voulions également porter la voix de tous ces enfants qui sont en détresse à l'est de la République démocratique du Congo pour des raisons. La première raison, c'est que personnellement, je pense que mon engagement a commencé dans la défense des droits des enfants et qu'il est très important aujourd'hui de savoir que ces enfants sont des victimes par rapport à tout ce qui
s'y passe, ils sont dépourvus de toute force mentale, toute force économique, toute force psychologique pour pouvoir affronter les enjeux de l'air, et ils sont en train de passer des moments le plus dire. La deuxième raison, c'est que notre organisation, qui est la Dynamique Génération Conscience, nous avons été intéressés par la situation actuelle des enfants. Et bien entendu, en vous écoutant, M. Guy, vous avez fait également sommairement un état des lieux par rapport au rapport de l'UNICEF. Déjà, quand l'UNICEF vous parle de 2 500 000 enfants aujourd'hui non scolarisés en République démocratique du Congo, surtout dans la partie Est, oui, c'est inquiétant. Inquiétant, et ça devrait révolter tous les Congolais. Ça devrait révolter tous les gouvernants pour que la préoccupation majeure soit concentrée sur comment mettre cet enfant à l'abri. Parce que c'est ça, protéger l'enfant. Protéger l'enfant, c'est mettre l'enfant à l'abri contre une mauvaise éducation, contre tout le conflit armé. Et aujourd'hui, l'enfant maintenant reste exposé. Rappelez-vous, M. Guy, si vous regardez les 2 500 000 enfants, c'est l'équivalent de la population totale du Gabon, M. Guy. Ça veut dire qu'on est en face d'une situation où d'abord, l'Est serait comparé à une zone dont on est en train de fragiliser et au-delà de fragiliser, d'enterrer et de créer un désespoir par rapport à son avenir. Déjà du point de vue sécuritaire, ça fait plus de 30 ans. Tous mes co-débatteurs dans cette émission étaient d'accord que ça fait plus de 30 ans que l'Est du pays est en train de connaître des cas d'insécurité parfois incompris. Ça fait déjà plus de 30 ans que nous sommes en face d'une éducation qui dégringole. Ça fait plus de 30 ans qu'on tend tous les jours à rabattre, à mettre l'économie par terre de l'Est de la République démocratique du Congo. Et face à tout ça, il y a un peuple résilient qui fait l'effort de survivre. Mais ces enfants n'ont pas la capacité de ces adultes-là de survivre. Mais non, si
ils
on
sacrifie, vulnérables.
Ils sont vulnérables. Alors, si on sacrifie ces enfants-là, ça veut dire qu'on est en train de sacrifier toute la partie est du pays. Et pour moi, je pense que c'est le plus grand danger auquel le Congo serait exposé aujourd'hui. Chaque Congolais averti, chaque citoyen averti congolais devrait dire, ça doit cesser. Ça doit cesser parce que, M. Guy, vous devez savoir que déjà la Convention relative aux droits des enfants par rapport au principe de respect des droits fondamentaux, il est dit, chaque enfant a des droits inaliénables, entre autres l'éducation, la santé, la famille. Et ici, nous sommes préoccupés par la question de l'éducation. Et puis, quand on rentre même dans la Constitution, je suis content quand j'écoute quand même le politicien parler de la révision de la Constitution. Et j'ai l'impression qu'on ne lit même pas cette même Constitution. L'article 41, 42, 43, ces articles-là parlent de la protection, le pouvoir public a la responsabilité de protéger les enfants. C'est la Constitution qui le dit. Donc, face à ces cas-là, tenez, déjà jusqu'aujourd'hui, nous avons enregistré 1,6 million d'enfants en situation de non-scolarité à Ituri. Jusqu'à février 2025, on a enregistré 330 000 enfants supplémentaires. Jusqu'en 2000, avec l'avancée de la guerre vers la province du Sud-Kivu, la province du Nord-Kivu, dans la partie Goma et aux environs, nous sommes partis jusqu'à 750 000 enfants. Donc, quand vous voyez, mais ça devrait permettre à nos autorités de ne pas avoir du sommeil. Et si nous avons accepté aujourd'hui d'en parler, parce qu'encore une fois, que ce soit hier, que ce soit avant-hier, il y a également des déplacements massifs des populations à Ituri, à Masisi, aux environs de Calais, et qu'il était important qu'on puisse imaginer dans cette situation-là, qu'est-ce qu'on peut faire malgré tout? Parce qu'on a des enfants congolais qui sont en Ouganda aujourd'hui, comme des réfugiés. Qu'est-ce qu'on a proposé pour d'abord sauver l'éducation de ces enfants? Nous avons des familles qui se sont déplacées vers le Burundi. Qu'est-ce qu'on fait d'abord pour protéger l'éducation de ces enfants? Et en plus, nous avons maintenant des enfants qui sont des déplacés internes, d'abord dans des zones qui ne sont pas contrôlées par l'ennemi. Qu'est-ce que nous en faisons? Monsieur Guy, on devait avoir à chaque fois des états généraux de l'éducation pour un plan de contingence. Quel est le manuel adapté à des enfants déjà troublés psychologiquement? Est-ce qu'on peut mettre en place ces manuels? Est-ce qu'on peut imaginer un programme d'éducation en ligne à travers les plateformes numériques? Est-ce qu'on peut avoir des radios communautaires qui sont des 12 heures, par exemple, à 15 heures, on dit programme des enfants et que les parents s'y mettent? Voilà, Ce sont des actions comme ça qu'on aimerait voir dans une situation où l'éducation est très très fragilisée aujourd'hui, que les enfants sont abandonnés à leur triste sort et que le gouvernement n'arrive pas à proposer quand même des voies de sortie que nous trouvons graves pour l'avenir du pays en général et de l'Est en particulier.
Merci Madame Stéphanie Waltoff. En plus du droit international humanitaire, il y a de nombreux textes et des lois qui protègent les enfants. Est-il prudent de laisser aux parties au conflit la latitude de se conformer à tous ces instruments légaux ou il faut plutôt imposer l'application de ces lois?
Non, je crois que il faut imposer ça, mais je crois que nous sommes allés au-delà de ça. Nous sommes dans une situation où c'est pas possible d'imposer ça, parce que c'est pas juste un petit problème qui passe dans quelques mois. C'est des enfants qui sont déplacés pendant des années, qui sont déplacés plusieurs fois, qui vivent dans les camps formels ou informels de déplacés ou de réfugiés, et qui ont perdu leur enfance, qui ont perdu la possibilité d'apprendre. Donc c'est pas une question aujourd'hui de faire un plaidoyer avec le M23 pour leur demander d'éduquer les enfants. On est bien dans une situation beaucoup plus grave que ça. Et je crois que, comme le disait Johnson, ça devrait être une priorité. C'est des générations à l'est de la RDC qui vivent dans ces situations et qui un jour vont se retrouver peut-être dans une situation plus stable, mais avec quelle perspective pour pouvoir gagner leur vie? Nous connaissons déjà la taille du secteur informel économique en RDC, qui est très important, bien sûr, mais nous connaissons aussi le taux de manque d'emploi et aussi les liens entre ceux qui manquent d'emploi et la facilité avec laquelle ils sont recrutés pour les groupes armés. Donc tout ça, c'est une dynamique qui se nourrit. Tu as des enfants qui ne sont pas éduqués, qui n'ont pas de perspective d'emploi et qui évoluent dans une situation instable et qui finalement sont menés à se débrouiller en se joignant aux groupes armés. Donc c'est une priorité absolue et je trouve que c'est très important que nous en parlons parce que en RDC, on a pris l'habitude d'entendre ces mauvaises nouvelles depuis tellement de décennies qu'on oublie vraiment de maintenir le regard sur ça et de faire en sorte que ça soit à nouveau une urgence qui est prise en compte et qui est prise au sérieux aussi par Kinshasa. Et comme disait Johnson, il y a des façons de faire. On peut à travers les radios comme la radio Capi, au moins donner certaines classes aux enfants qui sont déplacés pour qu'ils aient accès à ne fût-ce qu'un peu d'éducation. Il y a des moyens de faire, de se débrouiller avec les possibilités qui sont là. C'est loin d'être idéal, évidemment. Mais il faut absolument que ce soit pris comme urgence, parce que c'est l'avenir du pays qui est en jeu.
Voilà, c'est l'avenir du pays qui est en jeu, comme vous le dites, Madame Stéphanie Waltoff. Josaphat Temusamba, nous allons finir cette émission avec vous. Qu'est-ce que vous proposerez justement pour qu'on puisse sauver ces enfants des déplacés, ces enfants réfugiés, mais aussi qu'on puisse préserver leurs droits fondamentaux?
Alors, des propositions, il y en a plusieurs, mais moi, je ferai d'abord la distinction parce que il y a des enfants qui sont des déplacés internes. Il y a aussi ceux qui sont en situation de réfuge. Parce qu'il y a des enfants qui sont en situation de réfuge au Burundi, au Rwanda, au Congo, dans la plupart des pays de la région. Il n'y a pas que les enfants du Nord qui vont. Il n'y a pas que ceux du Sud qui vont. Il n'y a pas que les enfants de l'Ituri qui sont des réfugiés. Il y en a d'autres qui sont en situation de réfuge très prolongée depuis longtemps. Je connais des BMB qui sont dans les camps de Nyarugusu. Et je voudrais aussi dire que parmi les enfants, bien sûr, on doit être en mesure de savoir la loi congolaise qui parle. L'enfant, c'est cet être humain de 0 jusqu'à 17 ans, parce que c'est 18 ans révolus qu'on commence à l'âge de l'adulte. Mais comme on peut voir dans la plupart de ces cas-là, les acteurs qui sont à la base du déplacement forcé interne, des situations de réfugiés, il y a parmi eux des enfants qui sont dans les armées. Et donc, c'est là que je ne dis pas que je ne suis pas d'accord avec Johnson. Je voudrais qu'on puisse nuancer et dire ce qui est sur le terrain. Parce qu'il y a ceux qui ont été contrés à se déplacer, et d'autres en réfugié, mais d'autres sont dans la mobilisation armée, pas forcément dans les zones 23, dans les autres groupes de Wadendo. Il y a parmi eux des enfants de 15 ans, des combattants de 15, 17 ans, et des enfants, mais ils sont à la base du déplacement forcé interne des autres. Maintenant, ceux qui sont dans les camps, ceux qui sont à l'extérieur, j'ai fait que les États qui les reçoivent ont déjà mis en place ceux qui sont à l'extérieur il y en a des États qui ont mis en place des politiques qui sont requises et demandées par les conventions des États sur les réfugiés. En termes de ce qui est étudié, donc on doit d'abord ouvrir une école dans les camps ou bien dans les structures où ils se retrouvent parce que les enfants doivent étudier. Et ce qui a été fait, je pense, au Burundi, pour les enfants qui sont en situation de déplacement forcé interne et qui ne sont pas chez eux, je sais qu'il n'y a pas une politique très ouverte et très élargie de l'État congolais. Mais par exemple, dans les zones occupées par l'armée rwandaise, en 2023, il y a des organisations de droits pas des droits de l'homme humanitaires qui sont là, qui accompagnent d'ailleurs la vie très récemment. Mais regardons de manière très générale la situation de déplacement forcé interne, à la fois spécifiquement pour les enfants, mais les regardons aussi à l'intérieur comme à l'extérieur.
Merci, merci. C'est la fin de cette émission. Merci à vous tous d'avoir accepté d'y participer, Madame Stéphanie Waltos, Monsieur Josaphat Moussamba et Monsieur Johnson Ishara Boutaragaza. Merci aussi à Dieudonné Nyangasa et Paul Badianyama qui étaient à la technique, à la présentation Guy Maté. Merci et bon week-end sur Radio Capi. Cette émission sera rediffusée ce soir à 21h, heure de Kinshasa. Vous pouvez aussi la retrouver sur le site radiocapi.net. Nous allons nous séparer avec Ayant Droit, composition de Outamaï, chanson sortie en 1980 dans l'orchestre Ok Jazz, et on se retrouve le samedi prochain.
Bateo bolingo kiti donatio yani ningana bomba likamoyo oniyaro bango mapenzi kisasa mobi baba kukufa sonyo sana mobi pale nalula bamonaro
dodosa
nakoeba teo bolingo kiti donatio
Balingito kokanangana ba